entre les colons britanniques et les descendants des colons hollandais. Et en gros, ce conflit-là, il va marquer une opposition très nette, très importante entre les blancs, entre les colons britanniques et les colons hollandais. Ça, c'est un élément important pour comprendre le début de la situation en Afrique du Sud. En gros, l'Afrique du Sud, l'industrie, l'économie, elle repose avant tout sur l'industrie minière ainsi que sur la culture des terres. Par exemple, sur l'industrie minière, encore aujourd'hui, 1/5 de la population sud-africaine vit à Johannesburg, c'est-à-dire au centre du bassin minier. Et du coup, l'apartheid, il s'est développé en parallèle du développement du secteur minier. La situation en Afrique du Sud, elle a conduit à la mise en place d'un système de ségrégation raciale très poussé appelé apartheid. Et si l'on regarde à l'échelle internationale, l'Afrique du Sud, c'est pas le seul pays à avoir un État et des lois ouvertement racistes. Hein. Les États-Unis ont connu cette situation aussi jusque dans les années 1960. Et du coup, en fait, c'est les nombreuses luttes qui ont été menées par la population noire qui ont permis de mettre fin à ce système-là. Et du coup, pour le topo, il s'agira de voir à la fois comment s'est mis en place ce système d'apartheid et pourquoi. Et ensuite, c'est essayer d'analyser un peu le rôle qu'ont joué les organisations nationalistes noires, mais aussi les organisations ouvrières, comme le Parti communiste, par exemple. Et ensuite, la troisième partie, ça sera essayer de voir, en gros, la mise en place de la transition et voir, en gros, comment, en Afrique du Sud, on a mis fin à l'apartheid. Donc, du coup, le mouvement ouvrier sud-africain, il s'est développé avec l'arrivée des mineurs britanniques venus pour combler le manque de main-d'œuvre dans l'industrie minière. Donc ces ouvriers-là, ils sont venus apporter leur force de travail, mais ils sont aussi venus avec leur expérience politique, c'est-à-dire avec leur syndicat. Et du coup, on a les ouvriers britanniques qui sont organisés dans les syndicats. Au départ, les travailleurs afrikaners, c'est-à-dire les descendants des colons hollandais, eux, ne sont pas organisés encore dans les syndicats parce qu'ils estiment que les syndicats sont des outils qui permettent la domination coloniale. Et très rapidement, en fait, on va avoir les premières révoltes de mineurs blancs qui, à cause des conditions d'exploitation désastreuses et très dangereuses pour les mines. Mais la particularité du mouvement ouvrier blanc, c'est que les revendications qui accompagnèrent les premiers mouvements de grève, elles étaient teintées d'un très fort corporatisme, allant même jusqu'à théoriser une division raciale entre les travailleurs blancs et les travailleurs noirs. Donc les revendications du mouvement ouvrier blanc, elles sont corporatistes et racistes. Et du coup, dans les années 1915-1920, le mouvement ouvrier blanc, il va se renforcer parce que justement les travailleurs afrikaners vont rejoindre les syndicats des mineurs descendus des Britanniques. Et du coup, ça va renforcer le mouvement ouvrier blanc. De l'autre côté, le patronat, lui, il cherche à accentuer les divisions qui existent déjà entre les travailleurs blancs et les travailleurs noirs. Donc à chaque grève, en fait, les travailleurs blancs, ils sont remplacés systématiquement par des ouvriers noirs qui sont payés 10 fois moins cher. Et en fait, le patronat, il essaye d'appuyer sur les contradictions du mouvement ouvrier qui souffre de divisions pour essayer d'attiser la haine entre les blancs et les noirs et ainsi essayer de créer une unité interclassiste entre la classe ouvrière blanche et la bourgeoisie blanche contre les noirs. C'est en gros le l'objectif de la bourgeoisie, c'est de créer cette unité interclassiste contre les Noirs. Et du coup, parallèlement à la construction du mouvement ouvrier blanc, il y a aussi le mouvement ouvrier noir qui se développe. Donc on a les premières révoltes en 1906 contre la mise en place d'un nouvel impôt. En 1912, il y a l'ANC, donc le Congrès national africain, qui est le premier parti nationaliste noir à voir le jour et qui retranscrit les aspirations politiques, politiques des Noirs. Et c'est à partir de 1919 que les travailleurs noirs commencent à s'organiser dans des syndicats. Donc c'est le premier syndicat, il s'appelle l'ICU. Et du coup, il organise des grèves massives, notamment en 1920, où elles sont suivies par plus de 70 000 mineurs, et il y a 21 mines, en gros, qui durent fermées. Cependant, en fait, la grève, cette grève-là, elle n'a pas pu gagner, parce qu'il y a à la fois, il y avait une répression très importante voilà, de l'État, mais de l'autre côté, il y a eu aussi des ouvriers et des cadres blancs qui ont tout fait pour casser cette grève-là. Et du coup, la période autour des années 1920, c'est une période de très forte tension sociale. Donc on a une hausse croissante de la radicalité à la fois des travailleurs noirs et aussi des travailleurs blancs. Par exemple, le syndicat des travailleurs noirs, donc l'ICU, compte en 1925 un peu plus de 50 000 adhérents. Donc malgré ces éléments positifs, la fracture, elle est ouverte entre les ouvriers blancs et noirs, ce qui permet à la bourgeoisie de mener sa politique de casse sociale. Et du coup, suite au mouvement de révolte des ouvriers blancs, en fait, ouais, les ouvriers blancs, ils se révoltent en 1921, donc une révolte armée, voilà, il y a eu 254 morts, dont 74 policiers qui ont été tués durant cette révolte. Et le gouvernement, il décide de céder sur les revendications du mouvement ouvrier blanc, donc non pas pour améliorer les conditions sociales des travailleurs, mais avant tout pour apaiser le contexte politique qui était de plus en plus incontrôlable. Et la mise en place des revendications du mouvement blanc, hein, qui était les postes qualifiés pour les blancs, des zones territoriales exclusives pour les blancs, donc ces revendications racistes, elles vont commencer à s'appliquer, et du coup, elles vont permettre d'entériner les divisions de la classe ouvrière entre les blancs et les noirs, sans que ce soit perçu comme une attaque provenant de la bourgeoisie, en fait. C'est les travailleurs blancs eux-mêmes, c'est leurs revendications qui s'appliquent. Et du coup, l'année 1921, l'année de ces révoltes, elle marque la mise en place légale des premières grandes mesures d'apartheid. Et du coup, la situation, elle montre le rôle joué par la classe ouvrière blanche pour faire le jeu de la bourgeoisie. Et malgré une mobilisation très importante de celle-ci contre la baisse de leur salaire, les ouvriers blancs et leurs organisations, en fait, elles n'ont jamais voulu s'associer avec les travailleurs noirs pour pouvoir bloquer réellement l'extraction minière. Car si la grève, en fait, elle n'a pas pu déboucher sur des revendications progressistes, c'est pas à cause des travailleurs noirs que l'on a forcé à aller se faire exploiter dans les mines, mais c'est bien à cause de la direction du mouvement ouvrier blanc qui ne s'est jamais en fait adressé aux travailleurs noirs pour essayer de forger une unité de la classe ouvrière tout entière, c'est-à-dire des travailleurs blancs et des travailleurs noirs ensemble contre la bourgeoisie. Donc du coup, je vais un peu revenir sur le qu'est-ce que c'est que les organisations, l'ANC, le PC et les syndicats. Donc le Parti communiste, il est fondé en 1921. Donc au tout début, il soutenait le mouvement ouvrier blanc et très rapidement, il se tourne vers le soutien au mouvement ouvrier noir. Donc le Parti communiste, c'est pas un parti noir, c'est un parti multiracial qui au départ lutte pour le renversement du capitalisme et l'instauration d'un pouvoir ouvrier. Cependant, très rapidement, voilà, avec la stalinisation, il va remettre en cause l'ensemble de sa stratégie en Afrique du Sud. Et donc même si le parti communiste devait lutter contre l'oppression nationale, dans les pays sous-développés, donc la théorie c'est que dans les pays sous-développés, la révolution elle devait obligatoirement se faire par étapes. Donc au lieu d'exister pour chercher à construire un pouvoir ouvrier, le Parti communiste milite pour la mise en place d'un gouvernement bourgeois, et plus particulièrement en Afrique du Sud, pour la mise en place d'un gouvernement, pour mettre en place une bourgeoisie noire au pouvoir. C'est pourquoi, en fait, dès les années 20, le Parti communiste sud-africain va soutenir explicitement la politique qui est menée par l'ANC, donc le Congrès national africain. Et du coup, l'ANC, c'est quoi son objectif politique? Ben, c'est à peu près le même, en gros, c'est essayer de faire émerger la petite bourgeoisie noire qui existe, c'est-à-dire, en gros, les enseignants, les curés, les avocats, au sein des institutions étatiques et économiques, donc en somme, mettre une bourgeoisie noire au pouvoir. Et en 1945, il y a trois dirigeants du PC qui intègrent le comité exécutif de l'ANC. Donc on voit bien la collaboration qui se met en place. Du coup, là je vais passer donc à la mise en place concrète de l'apartheid à partir des années 40. Donc les années 40, elles sont marquées par une forte croissance économique. Et pour pouvoir continuer à exploiter les mines de manière rentable, la bourgeoisie, elle a besoin d'une main-d'œuvre importante, mais aussi d'une main-d'œuvre facilement exploitable et à faible coût. Et du coup, il y a énormément, il y a beaucoup de Noirs qui sont enrôlés de force pour rejoindre les villes minières. Donc, par exemple, la population de Johannesburg, elle double entre 1941 et 1948. Cependant, cette masse de travailleurs, elle représente un danger potentiel du fait de leur capacité à se révolter et à s'organiser. Et pour accentuer les divisions au sein de la société et mettre en place un contrôle de la classe ouvrière noire, l'apartheid, donc du coup, va être mis en place. Donc, dans le contexte politique, en 1948, il y a le Parti national qui remporte les élections. En gros, le Parti national, il représente les intérêts des Afrikaners, c'est-à-dire les descendants des colons hollandais. Et il est opposé aux Noirs et son discours, il est teinté d'une très forte démagogie anticoloniale tournée contre les colons britanniques. Et par contre, sa force, c'est de pouvoir mobiliser toutes les couches sociales blanches autour du rejet des Noirs. Donc, comme je disais tout à l'heure, en gros, c'est le parti qui représente le projet de faire une alliance interclassiste blanche contre les Noirs. Et du coup, l'État, avec l'apartheid, il va séparer la société en quatre communautés. Donc les blancs, les métis, les indiens et les noirs. Et du coup, il y a plusieurs mesures qui vont être prises pour mettre en place l'apartheid. Donc en gros, il y a une séparation physique entre les différentes communautés. Donc il s'agit de virer les populations non blanches des centres-villes blancs. Donc pour les populations noires, les travailleurs n'ayant pas de travail dans l'industrie, où les villes, ils sont envoyés dans des réserves qui sont appelées les homelands. Donc c'est des réserves en gros de noirs, enfin de noirs qu'on stocke, et quand on en a besoin, on va les prendre et on va les emmener dans les villes minières. Et du coup, quand ils arrivent dans les villes, ils sont parqués dans ce qu'on appelle les townships. En gros, c'est des quartiers périphériques des villes où il y a tous les travailleurs noirs qui sont mis là, quoi. Ils sont parqués là. Et en gros, ils vivent dans des espèces de cabanons en bois dont ils ne sont même pas propriétaires, quoi. Donc c'est un peu ça, voilà, la situation concrète de l'apartheid. Et du coup, il y a aussi une mesure importante, c'est la mise en place du pass. Donc en gros, c'était quelque chose qui permet, c'était une sorte de carte qui permettait de justifier, en gros, sa présence dans les quartiers blancs. Donc en fait, pour donner un peu une définition précise de l'apartheid. Donc l'apartheid, c'est une forme extrêmement oppressive de contrôle et de régulation de la main-d'œuvre. C'est un système juridique dont les buts sont de régler le marché du travail, la hiérarchie de salaire, le contrôle de l'armée de réserve, c'est-à-dire les travailleurs qui sont disponibles pour aller travailler dans l'industrie. Et c'est aussi réguler les inégalités de statut au sein du prolétariat. Et du coup, l'objectif de tout ça, c'est d'atomiser la classe ouvrière, car son unité, en réalité, c'est le seul moyen de faire face à l'oppression qui règne sur chacun des travailleurs libres. Et du coup, l'apartheid, il correspond à un besoin spécifique du capitalisme à un moment précis de l'histoire. pour pouvoir à la fois dégager un surprofit, mais aussi pour pouvoir reproduire plus facilement les mécanismes de l'exploitation capitaliste. Et l'existence de l'apartheid, il dépend de la capacité à la fois du mouvement noir à lutter contre celui-ci, mais il dépend aussi des besoins propres au système capitaliste. Donc en gros, les premières luttes contre l'apartheid, elles vont avoir lieu très rapidement. Donc au début, la stratégie qui est adoptée, c'est une stratégie pacifiste, hein, que ce soit l'ANC ou même les organisations de travailleurs indiens qui sont très influencés par la pensée de Gandhi. Donc c'est le pacifisme qui règne voilà, comme moyen de lutte. Et au final, ça se révèle très, très inefficace parce que la répression en face, elle est extrêmement, extrêmement forte. Bah, par exemple, en 1950, il y a un grand mouvement unitaire des organisations indiennes, noires et du Parti communiste qui est lancé. L'ANC, quant à elle, elle ne participe pas à ce mouvement et elle reste spectatrice. Et en gros, le 1er mai 1950, il y a une manifestation à Soweto et cette manifestation, elle est sauvagement réprimée. Et du coup, le gouvernement, il en profite. Il dit, voilà, le PC, le Parti communiste est responsable du désordre et du coup, le PC est en 1950 est illégal. Le PC ne peut plus exister. Et du coup, c'est aussi à cette époque-là qu'on va avoir un rapprochement encore plus important du PC avec l'ANC parce que l'ANC va permettre au PC d'avoir une vitrine légale pour pouvoir militer. Donc c'est à cette époque-là que le PC se rapproche d'autant plus de l'ANC. En 1952, il y a une nouvelle campagne de résistance passive voilà, qui se met en place. L'ANC, elle profite de sa position dominante, elle passe de 20 000 à 100 000 adhérents. Et dans cette campagne, en gros, il y a des manifestants qui défilaient notamment à Port-Elizabeth et à East London, en gros, ces deux villes d'Afrique du Sud. Et ces manifestants-là, ils décidaient en gros de rompre avec la politique qui était menée par l'ANC, c'est-à-dire une politique pacifiste. Et ils décidèrent de s'affronter avec la police, et la répression, elle a été très violente, hein, c'est 40 morts. Et en fait, l'ANC et Mandela, ce qu'ils disent, c'est que nous, on ne se solidarise pas des victimes de la répression parce qu'ils n'ont pas respecté notre mot d'ordre de pacifique. Donc on voit un peu voilà, comment se place l'ANC dans ce mouvement-là. On voit que l'ANC n'est pas prête à mettre en péril son propre appareil politique et n'est pas prête voilà, à soutenir coûte que coûte le mouvement ouvrier noir. Et du coup, pour un peu étayer cette idée-là, il y a un propos de Mandela qui est assez intéressant là-dessus. À un moment, il dit, quand nous avons appris que l'ANC ne prenait pas la tête de la mobilisation, le comité régional de Johannesburg décida que l'ANC devait se retirer. Je pensais que l'ANC ne devait participer qu'aux campagnes qu'elle dirigeait. Donc on voit bien qu'en fait, l'ANC, en gros, son but, c'est de préserver son appareil et ce n'est pas de défendre l'intérêt réel des travailleurs noirs à s'émanciper. Du coup, dans les années 50, le mouvement noir, il se divise. Donc on a une scission de l'ANC, en gros, c'est le PAC, le PAC. Donc en gros, le PAC, dans les années 60, il lance son propre mouvement contre les mesures d'apartheid. Et il y a une très forte répression. Il y a 69 personnes qui se font tuer à côté de Johannesburg. Et s'ensuit un mouvement de solidarité contre la répression qui va éclater partout en Afrique du Sud aux dépens de l'ANC. C'est-à-dire que l'ANC n'appelle pas à ce moment-là à manifester en solidarité contre la répression. Et l'ANC, elle est débordée par les masses et elle s'efforce de participer au mouvement tout en essayant d'en prendre le contrôle pour essayer de calmer le truc et limiter les affrontements. Et du coup, c'est à cette époque, et là ça va marquer un tournant en fait dans la stratégie du mouvement noir, c'est qu'il y a le PC qui est déjà illégal, mais c'est à cette époque-là que le gouvernement décide de rendre l'ANC, le PAC et tous les syndicats illégaux. Et du coup, toute la politique pacifiste, elle n'a plus de sens. Et du coup, toutes les organisations, enfin, notamment l'ANC, elle va passer par une stratégie qui passera par la lutte armée. Et du coup, l'ANC, elle ne choisit pas la stratégie de la lutte armée pour entrer dans une confrontation révolutionnaire avec l'État. Et au contraire, en fait, elle choisit cette stratégie-là pour assurer sa propre survie. Et il y a encore une citation de Mandela qui est assez explicite là-dessus. En gros, il dit « Le peuple avait pris les armes tout seul. Si nous ne prenons pas maintenant la direction de la lutte armée, nous serons des retardataires et les suiveurs d'un mouvement que nous ne contrôlerons pas. » Donc du coup, on voit bien ici où se place l'ANC par rapport à la question de la lutte armée. Donc du coup, avec ce changement de stratégie, Mandela devient le chef du commandement armé de l'ANC, et du coup le PC, il dépend de l'autorité de Mandela. Donc l'URSS va fournir des armes au PC pour qu'ils arment l'ANC. De l'autre côté, on a l'armée de l'Afrique du Sud qui reçoit un soutien des États-Unis. Et du coup, l'objectif de l'ANC, c'était pas en fait d'armer la population noire au sein des townships ou des industries, mais il s'agissait seulement d'enrôler quelques militants de base dans des actions visibles montrant que l'ANC, elle était bel et bien en lutte contre l'apartheid. Et du coup, la majorité de l'activité, ça se caractérisait par des destructions à l'explosif de bâtiments de l'armée, de routes, de ponts, de chemins de fer, etc. quoi. Donc des actions visibles pour montrer que, en gros, l'ANC, elle lutte contre l'apartheid. Et toutes ces actions, en vrai, elles étaient totalement déconnectées, elles étaient volontairement déconnectées des masses et ne pouvaient pas les entraîner dans une confrontation armée de masse contre l'État. En fait. Et du coup, les nationalistes, ils se donnaient pour but la construction par en haut d'un embryon d'appareil d'État comme moyen d'encadrer la population laborieuse et d'utiliser sa force qu'au service de leurs propres objectifs politiques. Et si les moyens étaient radicaux, donc la lutte armée c'est quelque chose de très radical, le but était toujours le même, donc faire accepter des Noirs dans les rangs de la classe bourgeoise d'Afrique du Sud. Donc c'est toujours ça, l'objectif politique, il n'a pas changé. Donc du coup, là, je vais passer aux années 1970, que voilà, pendant une dizaine d'années, il y a très peu de luttes à cause de la répression. Et les années 60, en fait, elles sont marquées par une expansion du capitalisme, hein, donc ça, c'est à l'échelle internationale. Et du coup, cette expansion... En gros, la spécificité de l'Afrique du Sud, elle réside bien dans l'existence de l'apartheid qui va permettre de surexploiter les travailleurs noirs, ce qui accélère d'autant plus le boom économique. Et ces évolutions économiques, elles ont eu des conséquences qui entrent en contradiction avec l'exploitation toujours plus grande des travailleurs, parce que la classe ouvrière blanche, elle, en vrai, elle a quasiment disparu. C'est-à-dire que les travailleurs blancs, maintenant, ils ont des tâches de surveillance, de contrôle ou de commandement. Et de l'autre côté, donc, on a un nombre de prolétaires noirs qui a explosé. Hein. Déjà en 1970, les noirs sont beaucoup plus nombreux que les blancs dans l'ensemble des grandes villes. Et la classe ouvrière noire, qui compose la majorité du prolétariat en Afrique du Sud, a désormais un rôle central dans la lutte contre l'apartheid et le capitalisme, d'autant plus que aujourd'hui, enfin à cette époque-là, les travailleurs noirs, il y avait toute une partie de travailleurs noirs qui étaient des travailleurs qualifiés. Et en fait, ces travailleurs qualifiés-là, pendant les grèves, c'était pas possible de les remplacer immédiatement parce qu'il fallait, si on voulait les remplacer, il fallait en former d'autres, etc. Et puis, ça rendait les grèves encore plus efficaces. Donc en gros, les luttes, elles reprennent autour des années 72-73, donc on a une grève qui se déclenche chez les dockers et qui va s'étendre en 73 avec 60 000 travailleurs qui participent au mouvement. Et du coup, à cette époque-là, les salaires ils vont fortement augmenter en parallèle de la hausse du nombre de luttes. Et entre 72 et 75, les salaires seront multipliés par 4. alors que même que la grève et les syndicats sont interdits par la loi. Donc l'année 76, elle va marquer un tournant historique, parce que là, c'est l'entrée de la jeunesse dans la lutte active contre l'apartheid. Donc le mouvement, à la base, il est déclenché, parce qu'en fait, il y a une loi qui est imposée par le gouvernement qui exige que la moitié des cours soient donnés en langue afrikaner, donc la langue des descendants des Hollandais, et non plus en anglais, et ça, c'est vécu comme une véritable insulte et une humiliation de plus. Et du coup, en gros, il y a les syndicats lycéens, les syndicats étudiants qui appellent à une manifestation. Donc il y a 15 000 étudiants lycéens âgés de 10 à 20 ans, donc il y avait vraiment des gens très 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 jeunes, et qui vont s'affronter avec la police, et en gros, ça tourne à l'émeute. Et en fait, ça se passe à Soweto, et en gros, Soweto, ça devient un peu une braise qui est un peu difficile à éteindre, d'autant plus que le soir, quand les parents des élèves rentrent du travail, ils constatent la répression, et en fait, les parents, ils vont s'associer aux élèves, et en gros, on va avoir un front uni à la fois de la jeunesse et des travailleurs contre la répression qui se met en place. Et dans les mois qui suivent, c'est plus de 160 townships qui vont se soulever, et où la jeunesse, elle va jouer un rôle déterminant. Et du coup, c'est à ce moment qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle génération de jeunes qui cultivent la culture de l'insoumission et de l'affrontement face à l'État et face à l'apartheid. Et du coup, on voit que là, c'est à cette époque-là que la conscience noire, elle commence à réellement progresser. Et donc, l'ensemble de ces luttes qui ont lieu, donc vont faire progresser la conscience de quel travailleur. Et c'est dans cette période-là aussi que se développent de très nombreux syndicats noirs indépendants un peu partout. Donc en 1979, ces syndicats, ils regroupent environ 100 000 travailleurs. Et du coup, c'est aussi à cette époque-là que naissent les débats pour essayer d'unifier la classe ouvrière dans une grande centrale syndicat qui permettrait justement d'unir la classe ouvrière noire dans un front commun, quoi, comme un peu comme on parlait ce matin. Et du coup, la fin des années 1970, il y a 5 centrales syndicales en gros qui se créent. Bon, là, je vais surtout parler de la plus importante, c'est la FOSATU, qui deviendra COSATU après, et c'est un regroupement de syndicats industriels de base, non racialistes, très attachés à la démocratie et à la lutte anti-bureaucratique, en fait. Donc voilà. Donc en gros, face à la montée des syndicats noirs indépendants, il y a le pouvoir en place qui essaye de tendre un piège au mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'il essaye d'intégrer, il propose une réforme pour intégrer ces syndicats à un appareil de négociation, etc. Mais du coup, l'objectif de cette réforme, c'est de diviser le mouvement ouvrier entre les ouvriers noirs qualifiés et les ouvriers noirs non qualifiés. Parce qu'en fait, cette réforme, elle a pour objectif de reconnaître uniquement les travailleurs ayant un poste fixe, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés qui ont un poste fixe, et ça exclut toute la grande masse des prolétaires migrants et précaires qui n'ont pas de poste fixe. Et du coup, en fait, il y a un débat qui naît au sein du mouvement syndical sur est-ce qu'il faut participer ou non au cadre de discussions qui sont proposées par le gouvernement. Et en fait, le débat, il va rapidement se résoudre parce que c'est sur le terrain de la lutte de classe que ça va se jouer. Et en fait, je vais citer deux exemples. Donc, chez Ford ou chez Fatih, c'est un producteur de pâtes, où il y a eu une lutte assez emblématique avec à la fois une grève massive des travailleurs, mais aussi un boycott organisé dans tout le pays, mais aussi par les organisations politiques. Donc c'est aussi à cette époque-là qu'on voit les premiers liens entre lutte syndicale et le lien avec les organisations politiques. Et du coup, ces luttes-là, elles vont permettre d'imposer la reconnaissance des syndicats noirs indépendants, mais aussi ils vont permettre d'imposer les propres cadres de discussion qui sont proposés par les travailleurs. Et c'est ça qui va permettre justement au syndicat d'être reconnu. Et même dans le secteur minier, où le patronat répondait uniquement à coups de fusil, Ils acceptent de rencontrer le NUM, donc ça fait partie de la FOSATU, et c'est le syndicat des mines. Et du coup, l'ANC, depuis une quinzaine d'années, elle mène une politique de lutte armée comme on l'a vu, bien loin des townships où la lutte elle se mène réellement. Et du coup, les appareils du PC et de l'ANC, ils étaient exilés à l'étranger. Et les actions de lutte armée se décidaient surtout dans les camps de Mozambique. Voilà, Mozambique est un pays frontalier à l'Afrique du Sud. Tandis que d'autres dirigeants se trouvaient dans les pays impérialistes pour essayer de les convaincre de faire flancher le gouvernement sur le système d'apartheid. Donc en réalité, les appareils de l'ANC et du PC étaient en train de constituer petit à petit un État en exil. Donc en gros, c'était un instrument discipliné avec ses propres forces de répression en son sein. C'est-à-dire, dans les camps d'entraînement de l'ANC, il y avait des prisons avec des pratiques de torture, etc., pour ceux qui ne respectaient pas la ligne de l'ANC. Donc en gros, c'était vraiment un État en exil qui était en train de se construire. Et la politique menée par le PC à cette époque-là, elle était totalement erronée. Parce qu'en fait, on a de nombreux éléments qui montrent l'évolution de la conscience noire, donc le développement des syndicats. Mais aussi, il y a de nombreux comités populaires dans les townships qui se mettent en place pour essayer d'organiser la vie courante, etc. Et on a aussi, troisième élément, une génération militante très combative qui est en train de se former, qui est en train de mener des luttes. Et du coup, le PC, à cette époque-là, il aurait sûrement dû rompre avec la politique nationaliste petite bourgeoise de l'ANC pour soutenir les luttes. À la fois sur le terrain économique, en essayant d'y jouer un rôle déterminant pour centraliser les luttes, mais aussi pour avancer des revendications transitoires qui posent la question du contrôle ouvrier sur la production, et à la fois faire avancer des revendications démocratiques pour pouvoir renverser le système d'apartheid. Donc, en fait, le PC, à cette époque-là, il considérait que la situation en Afrique du Sud, c'était une situation particulière où, en gros, il y avait deux États. Il y avait un État oppresseur, un État oppressé, et qu'en gros, il fallait passer par une lutte de libération, que les Noirs devaient passer par une lutte de libération nationale. Mais en réalité, cette analyse, elle est erronée, parce que la société sud-africaine, ce n'était pas deux États distincts, c'était une société, et il y avait un lien entre la bourgeoisie blanche et les travailleurs noirs, et ce lien-là, c'est l'économie, c'est l'industrie moderne. Et du coup, la classe ouvrière noire, c'était la classe qui était en capacité de prendre la direction du mouvement ouvrier pour entraîner voilà, aussi les Indiens, les Métis qui s'identifiaient aussi à la classe ouvrière noire. Et du coup, cette classe ouvrière, en combinant des revendications démocratiques et des revendications voilà, pour la révolution prolétarienne, aurait pu prendre le pouvoir et prendre le contrôle de la société en Afrique du Sud. Et en plus de ça, concrètement, le Parti communiste, hein, son rôle, ça aurait pu être au lieu d'appuyer les actions armées de l'ANC, ça aurait été de récupérer les armes que donnait l'URSS pour aller les donner aux travailleurs qui luttaient dans les townships ou dans les industries. Et du coup, c'était poser la question d'un nouveau pouvoir en s'appuyant sur les comités populaires, mais c'était aussi poser la question de l'autodéfense ouvrière en défendant l'extension des grèves et en défendant la prise en main des armes par le prolétariat. Donc, du coup, là, je vais passer aux luttes dans les années 80. Donc, dans les années 80, en gros, l'ANC, donc, est en exil et va essayer de récupérer l'hégémonie sur le mouvement. Et pour ça, elle va créer l'UDF, donc c'est le Front Uni Démocratique. Donc ce Front Uni Démocratique, en gros, il est sous l'influence de l'ANC et il regroupe des organisations politiques, syndicales, religieuses autour de ce qu'on appelle la Charte des Libertés. Donc la Charte des Libertés, en gros, c'est le programme politique de l'ANC. Et de l'autre côté, on a un autre front qui se forme, c'est le National Forum. Ce truc-là, en gros, c'est dominé par le mouvement de conscience noire. Donc le mouvement de la conscience noire, c'est un mouvement qui est proche, qui s'inspire un peu des Black Panthers, etc. Et c'est en gros un mouvement qui refuse toute collaboration avec les organisations blanches. Donc début des années 1984, les tensions sociales et politiques se faisaient de plus en plus fortes avec un double mouvement. Donc on a à la fois des luttes de plus en plus importantes dans les entreprises, mais on a aussi dans les townships un mouvement de désobéissance civile de masse qui s'organise, c'est-à-dire un boycott des loyers, un boycott des factures, des transports, etc. Donc on a ce double mouvement-là qui se met en place. Et suite aux élections qui a lieu en 1984, où pour la première fois depuis l'apartheid, les Indiens et les Métis ont pu voter pour leurs propres députés, dont la participation a été de 18 et 13%, donc une participation très faible, en gros, il y a des émeutes de masse qui vont être déclenchées dans les townships. Et quelques jours plus tard, à la fois il y a les émeutes et à la fois il y a 45 000 mineurs qui se mettent en grève pour des augmentations de salaire. Et l'État, en fait, ils vont appliquer une réponse vraiment très, très radicale pour lutter contre ça. C'est en gros l'occupation de toute l'Afrique du Sud et de tous les townships par l'armée. Donc en gros, l'État, il déclare la guerre aux Noirs. Et en gros, dans cette situation, il y a quand même un élément important. Là, il y a une région dans le Transvaal où il y a toutes les organisations anti-apartheid, quelle que soit leur tendance, qui fondent un comité de grève régionale. Et ça permet de lier les questions économiques avec les questions politiques. Et ça permet aussi de rendre beaucoup plus efficace le mouvement. Hein. Il y a eu 80% de participation au mouvement de grève qui avait été mis en place par ce comité de grève-là. Donc, du coup, on voit les formes justement de double pouvoir, etc., qu'on discutait ce matin. Voilà, c'est le moyen le plus efficace pour mobiliser l'ensemble de la classe ouvrière. Donc du coup, l'année 85, elle sera marquée par la création de la COSATU. Donc en gros, c'est une centrale syndicale qui va regrouper la quasi-totalité des anciens syndicats. Donc c'est vraiment voilà, le syndicat hégémonique en Afrique du Sud. Et en même temps, on assiste à une généralisation de la contestation des émeutes. Voilà, des généralisations, même dans les toutes petites villes. Donc, ce qui rend vraiment la situation totalement incontrôlable pour le gouvernement. Voilà, on a même l'UDF, hein, qui est dominée par l'ANC, qui appelle à des grèves, qui appelle au boycott, qui appelle aux émeutes. Donc, vraiment, il y a toutes les organisations qui sont unies pour renverser le système d'apartheid. Et c'est à ce moment-là que la bourgeoisie, elle commence à douter, elle commence à remettre en cause le système d'apartheid lui-même. Enfin, par exemple, il y a un journal, c'est le Financial Mail, donc un truc journal bourgeois, qui dit jamais dans les temps modernes, les hommes d'affaires de ce pays n'avaient jamais été aussi unis dans leur condamnation du gouvernement et de sa politique économique et sociale. Donc, du coup, on voit bien là les divisions au sein de la bourgeoisie. Pour, en gros, pour les solutions à apporter à ce conflit. Donc, du coup, à cette époque, on a une situation qui est clairement pré-révolutionnaire, avec des émeutes vraiment généralisées dans tout le pays, et de l'autre côté, une classe dirigeante qui se divise sur les réponses à apporter face à cette situation. Ouais, c'est fini. Donc en gros, le problème dans cette situation, c'est qu'on a une situation pré-révolutionnaire, mais dans cette situation, il n'y a aucune organisation présente qui voulait faire du prolétariat noir la classe qui était au centre de tous les affrontements. Ils ne voulaient pas faire de cette classe une direction consciente du mouvement pour passer de la révolte à la révolution. Par exemple, les syndicats, ils continuèrent à théoriser la séparation entre lutte économique et lutte politique. L'UDF appelait à des grèves, aux émeutes et à toutes les actions radicales pour renverser le système d'apartheid, mais l'ANC ne voulait pas de pouvoir démocratique des travailleurs. Il voulait simplement remplacer l'État actuel par un État qui serait dirigé par l'ANC. Et du coup, l'ANC, elle essayait de contrôler les masses, elle n'hésitait pas à tirer sur des organisations concurrentes et même à régler ses problèmes internes à coups de fusil. En 1986, l'État, donc il va encore plus loin dans la répression, il décrète l'état d'urgence et s'ensuit une période de répression très féroce. Hein, depuis 86, enfin, en 86, on compte 40 000 personnes qui ont été internées sans jugement. La profondeur de la contestation du régime d'apartheid, on peut l'avoir par les gens, enfin, par le profil des gens qui ont été arrêtés. Parce que la plus jeune personne qui a été arrêtée, elle avait 11 ans. Donc ça montre bien qu'il y avait vraiment voilà, toute la société, des gamins de 10 ans jusqu'à enfin, tout le monde, quoi, qu'il y avait un front uni pour lutter contre ce système-là. Donc en gros, le patronat, pour mettre fin à ce cycle de lutte, il commença par devancer le gouvernement en organisant des rencontres publiques avec l'ANC. L'apartheid, ça a été un moyen pour la bourgeoisie pendant 40 ans d'extorquer aux travailleurs noirs un surprofit très important. Cependant, la situation actuelle, elle permettait plus de faire fonctionner le système économique comme avant. Le patronat ainsi que les hommes d'affaires étrangers savaient pertinemment que si l'apartheid continuerait, les émeutes et les grèves aussi continueraient et elles continueraient à mettre du sable dans la machine d'exploitation capitaliste. Et en plus de ça aurait pu, voilà, il y avait un réel risque de révolution en Afrique du Sud et une révolution en Afrique du Sud aurait pu entraîner les autres pays d'Afrique vers aussi voilà, une contestation et pourquoi pas un mouvement révolutionnaire qui aurait pu embraser tout le continent africain. Donc là, la situation, elle était vraiment très très tendue, quoi. Donc le patronat, donc en gros, il est un peu coincé entre deux choix, soit maintenir l'apartheid, soit ne plus le maintenir. Mais du coup, s'il ne le maintient plus, ça veut dire c'est-à-dire céder les droits démocratiques élémentaires aux Noirs, c'est-à-dire par exemple le droit de vote. Et du coup, les Noirs, hein, c'est 25 millions de personnes, tandis que les Blancs, ils sont 5 millions. Donc si on leur donne le droit de vote, en gros, ils peuvent élire qui ils veulent. Et du coup, pour la bourgeoisie, l'enjeu, c'est de choisir un interlocuteur pour assurer la transition. Et cet interlocuteur-là qui va être choisi, c'est l'ANC. Donc l'ANC, les bourgeois savent très bien que ce n'est pas un parti révolutionnaire qui va remettre en cause le capitalisme, mais c'est un parti qui peut remettre en cause les intérêts de la bourgeoisie blanche en Afrique du Sud. Et du coup, ça va être tout l'enjeu là des années 90, ça va être de trouver un compromis entre la bourgeoisie blanche et la bourgeoisie noire pour essayer de faire en sorte qu'il y a un compromis acceptable avec le système et que la bourgeoisie blanche ne soit pas, enfin, la domination de la bourgeoisie blanche, elle ne soit pas endommagée. Donc du coup, il y a Mandela qui profite de cette situation, donc en gros, il demande des pourparlers avec le gouvernement. D'autre côté, il y a les puissances impérialistes, notamment les États-Unis, qui organisent un boycott de l'Afrique du Sud pour faire pression pour mettre fin à l'apartheid. Donc en gros, voilà, pour l'ANC, vu que les pourparlers sont entamés, que Mandela a été libéré, etc., les masses, elles devaient quitter l'euro, enfin, devaient quitter la scène politique. Et pour ça, en gros, il y a l'ANC qui fait tourner son service d'ordre dans les townships pour essayer d'assurer la paix, le calme social. Et on a aussi, au sein du mouvement noir, une division importante qui se met en place sur des problèmes ethniques, c'est-à-dire qu'il y a un chef ethnique au sein de l'ANC, donc le chef des Zoulous, en gros, qui voulait un poste au gouvernement. Et en gros, pour faire pression, il lance des raids dans les townships contre les militants de l'ANC. Donc on a une espèce de petite guerre voilà, civile plus ou moins dans les townships entre les camps ethniques, ce qui détourne les masses de la vie politique. Et du coup, les négociations, elles ont abouti sur un compromis qui permettait d'accéder voilà, à de nouveaux droits pour les Noirs et aussi d'accéder à une vie meilleure par des réformes sociales, etc. Et du coup, en 1994, il y a les élections. Mandela, il est élu avec 62% des suffrages. Et en gros, il y a le Parti national, donc le parti de l'apartheid, qui est encore au pouvoir avec l'ANC. Le Parti national, lui, il a 9 portefeuilles au gouvernement. Le PC et Kossatou, ils sont aussi au gouvernement parce qu'ils s'étaient présentés sur les listes de l'ANC. Le PC, il dispose de plusieurs ministères, dont le ministère de la Défense, où ils maintenaient le chef d'état-major qui avait organisé toute la répression auparavant. Donc on voit qu'il y a réellement rien qui change et que les structures du système, elles restent en place. Par exemple, il y a une petite anecdote, il y a 2000 policiers noirs qui rentrent dans la police. Et en fait, ils se mettent en grève rapidement à cause des problèmes de racisme. Et Mandela, il envoie d'autres policiers leur tirer dessus pour arrêter la grève. Donc ça, c'est un peu voilà, la politique que mène Mandela au pouvoir. Donc en gros, la situation matérielle des Noirs et des travailleurs, elle avait quasiment pas changé. Il y avait seulement la façade de l'État qui avait un peu changé. Et après, voilà, sur le plan économique, le premier budget qui est voté par l'ANC en 1995, c'est une baisse de 6% des salaires des fonctionnaires, une baisse de 10% des crédits pour la santé, et c'est une diminution de l'impôt sur les bénéfices qui passe de 48% à 35%. Donc un plan d'austérité comme on pourrait le voir actuellement en Grèce ou en Espagne, c'est un peu de la même ampleur. Et en gros, il y a aussi le secrétaire général, enfin l'ancien secrétaire général de la COSATU qui organise la privatisation des postes et des télécoms, enfin tout un tas de politiques. Et en gros, les syndicats, ils demandent aux travailleurs de participer à l'effort national. Bon, il y a une citation voilà, d'un dirigeant syndical qui dit: «Nous avons eu souvent des journées de grève où nous n'étions pas payés. C'est à nous, en tant que travailleurs, de donner l'exemple des sacrifices.» Donc en gros, on voit voilà, tout le mouvement noir qui est uni pour imposer l'austérité, la précarité, etc. Donc en gros, il y a du coup une bourgeoisie noire qui émerge, on les appelle les diamants noirs. Et du coup, par exemple, il y a un dirigeant du NUM, c'est le syndicat des mineurs noirs, qui a pu racheter des mines peu rentables que lui cédait un groupe anglo-américain. Le syndicat COSATU créa une compagnie de holding pour monter un casino avec un propriétaire de salle de jeu. Les syndicats du textile se servirent des fonds destinés aux enfants pour acheter des actions en bourse au profit des bureaucrates. Donc on voit la mise en place par, en gros, le détournement de fonds des organisations noires pour faire émerger cette bourgeoisie noire et essayer de la faire prendre une place dans le système économique sud-africain. Donc en gros, ouais, en 99, Mandela cède sa place et c'est Mbeki qui est élu avec 66% des voix, mais une abstention de plus en plus forte. Et en gros, c'est les mêmes, enfin, c'est la même politique qui est menée. En 2004, l'ANC est élue avec 69% des voix parce qu'en gros, elle a absorbé tout le parti national, le parti qui a mis en place l'apartheid, en gros, rentre dans l'ANC. Et du coup, l'ANC, bon, elle fait 69% aux élections en 2004. Et la situation, donc, elle est clairement difficile pour la classe ouvrière sud-africaine. Donc les licenciements sont toujours de plus en plus nombreux. Il y a un taux de chômage de 41% de chômeurs contre 27% en 1994. Les mines sud-africaines sont plus dangereuses que les mines chinoises. Le PIB par habitant classe l'Afrique du Sud à la 105e position entre le Monténégro et la République dominicaine. Et selon les agences internationales, l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays où les inégalités sociales sont les plus élevées au monde. Et encore plus qu'à l'époque de l'apartheid. Et en gros, ouais, même, et par exemple, il y a un chiffre vraiment intéressant, c'est l'espérance de vie qui baisse de 10 ans. Enfin, c'est vraiment un truc dans l'histoire qui est rare. Et là, c'est, ouais, une baisse de 10 ans, notamment à cause, voilà, le problème du sida en Afrique du Sud, c'est vraiment un problème très, 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 très important. Et de l'autre côté, on a les budgets de la santé qui sont coupés, quoi. Et du coup, il y a quand même des luttes dans cette situation. En 2007, il y a 500 000 employés de l'État qui organisent une grève et qui a poussé le gouvernement à aller vers un compromis salarial. Cependant, la situation elle est de plus en plus difficile parce que il y a à la fois dans les townships les mafias liées à l'ANC qui veulent prendre voilà, le contrôle de ces trucs-là, et on a aussi des problèmes liés au gangstérisme, en gros. Et du coup, ça crée une situation d'insécurité très grande. Et par exemple, on a une très, très forte hausse des viols, par exemple. Donc c'est une situation, voilà, tout est laissé à l'abandon, et c'est en gros voilà, les mafias, etc., maintenant qui gèrent les townships. Et aussi, on a eu des émeutes xénophobes en 2008. En fait, il y a des travailleurs noirs qui se sont fait licencier, et il y a des migrants venant des pays au nord qui sont arrivés, et en gros, il y a eu des émeutes contre ces migrants-là, parce qu'en gros, ils volent le travail des travailleurs noirs africains. Donc en gros, les noirs eux-mêmes sont xénophobes entre les travailleurs, enfin, en gros, avec toute une politique nationaliste, démagogique, etc. Du coup, en 2009, c'est Zuma qui est élu, donc il représente l'aile gauche de l'ANC, mais il mène exactement la même politique. Et en gros, ouais, ce que je disais, il y a une remontée des luttes là depuis quelques temps. Et par exemple, voilà, le 7 mars 2012, la COSATU, elle a été obligée d'appeler à une journée de grève générale contre la flexibilisation du travail à cause de la pression à la base qui est vraiment très forte. Et les luttes ouvrières sont symptomatiques de la situation économique et sociale. À la fois, les conditions de travail, elles se sont endurcies dans les mines, et les directions syndicales corrompues sont de plus en plus discréditées. Donc la grève des mineurs noirs, elle a été qualifiée, bon, la grève qu'on a tous entendu parler au mois de septembre, elle a été qualifiée de grève sauvage car elle s'est déclenchée indépendamment des syndicats traditionnels de la classe ouvrière noire. Et elle a été particulièrement violente. Et la répression, elle a fait plus de 44 morts. Et en gros, elle rappelle le rôle joué par l'armée et la police dans la répression qui a été menée systématiquement contre le mouvement ouvrier noir à partir des années 1970. Et en gros, ce qui s'est passé là au mois de septembre, c'est un véritable tournant dans l'histoire post-apartheid de l'Afrique du Sud. Et en gros, là, actuellement, il y a vraiment des perspectives politiques qui sont à envisager en Afrique du Sud. La pression, elle est de plus en plus forte sur Cossatou. Voilà, ils appellent à des journées de grève générale alors qu'ils sont eux-mêmes au gouvernement, ce qui crée des tensions assez énormes avec l'ANC. De l'autre côté, on a un regroupement de forces anticapitalistes et écosocialistes, ça s'appelle le Front démocratique de gauche, en gros, qui est implanté dans toutes les provinces sud-africaines ainsi que dans le syndicat Cossatou. Et en gros, il a vu le jour en 2011, et cette coalition, en gros, elle cherche à mobiliser la classe ouvrière autour de revendications sociales, donc sur les salaires, les conditions de travail, la question du logement, et aussi à chercher à coordonner ces luttes-là. Mais par contre, elle cherche aussi à construire une alternative large à l'ANC en essayant de profiter des éventuelles recompositions qui se passeraient voilà, à l'intérieur de Cossatou ou de l'ANC. Mais voilà, on voit que à mon avis, ce n'est pas les recompositions politiques au sommet qui permettront aux travailleurs de prendre le pouvoir en Afrique du Sud, mais c'est la classe ouvrière noire qui doit compter sur ses propres forces, sa capacité à s'organiser consciemment, en tirant les bilans des expériences voilà, des luttes des années 1970 et 1980, pour proposer une stratégie politique permettant de lier les revendications sociales pour lutter contre les conséquences des plans d'austérité, ainsi que des revendications démocratiques pour mettre fin à tous les mécanismes de l'apartheid, et avec en fond derrière la perspective de la révolution socialiste.
Très belle fin. Merci, donc l'un des deux François, hein, de Marseille. Alors, comme on a repris un peu plus tôt là ce midi et que le topo a duré enfin 53 minutes pour être précise, mais à peu près 1 heure quoi. Donc, comme vous voulez, soit on enchaîne le débat maintenant, soit on fait une pause de 5 minutes histoire d'ingérer un peu tout ça et on reprend même. Enfin voilà, on attend ce qu'on a jusqu'à 16h30. Et comme la formation qu'il y a sur la Palestine après, elle est faite par un camarade qui n'est pas du secteur jeune, donc qui vient pas tout le week-end, mais qui vient que pour la formation, on dépend de son arrivée qui est prévue à 17h. Donc on est un peu libre, on a jusqu'à 16h30, donc on peut faire une pause si vous voulez. On dit. Ouais, juste. Ouais.
Les gens qui habitent en région parisienne et qui ne sont pas toujours alors qu'ils ont des lits, ils les matelas chez eux, d'une part c'est mal et d'autre part ils n'ont pas encore le faire. Voilà.
Du coup il est 40, on reprend vers 45 à peu près quoi, enfin 45-50.
D'accord.